décrivait un petit peu les relations que Jésus avait avec les gens de son vivant, mais approximativement, il a les mêmes intentions. Que Jésus soit ressuscité, nous le croyons fermement. C'est Saint Jean qui dira dans une de ses lettres, ce que nous avons vu et contemplé, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Et Saint Jean, dans ses lettres, va expliquer que lui aussi, il se fera le porte-parole des premiers chrétiens, des premiers leaders, comme quoi ils ont vu et ils ont contemplé celui qui était ressuscité. Ils l'ont pas seulement contemplé, mais ils l'ont entendu. Et en fin de compte, c'est ce qu'ils vont essayer de nous transmettre. Comme nous avons vu et entendu le Seigneur Jésus avec les yeux et les oreilles de notre corps, nous voulons faire en sorte que vous aussi, vous puissiez non seulement le contempler, mais le voir en esprit. C'est pour ça qu'il y a toute la puissance de la parole avec ces mots remarquables qui peuvent projeter des images à nos esprits. Parce que ce n'est pas tellement difficile, vous savez, lorsqu'on entend une prédication, lorsqu'on lit la Bible, de visualiser la chose dans nos cœurs. Parce que Jésus était un homme simple, un homme vrai comme vous et moi, à l'exception que lui était sans péché. Mais il est bien justement de remarquer que les relations qu'il a eues de son vivant en tant que personne physique, ben il a les mêmes intentions. Jésus a eu deux aspects dans sa vie. Il a eu un aspect public, parce qu'il a été un homme public, mais il a été aussi un homme privé. Il y a une dimension privée et publique dans la vie du Seigneur, et cette dimension, elle doit se retrouver dans la vie de chacun. Si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut que nous intégrons le fait d'avoir une dimension à la fois privée et publique. Et Jésus, dans le cadre de sa vie privée, il s'est souvent isolé. Et vous savez, quand le Fils de Dieu s'est isolé, il ne s'est pas isolé dans les déserts, contrairement à ce qu'on peut penser, mais il préférait les montagnes. Donc on s'aperçoit que le désert n'était pas un lieu de prédilection du Seigneur. On connaît tous, plus ou moins, l'histoire de la tentation du désert. Mais donc le désert n'est pas un lieu de prédilection du Messie. Bien au contraire, les bourgades animées qu'il y avait en Galilée et en Judée, ainsi que la ville sainte de Jérusalem qui était investie par les foules, loin de le rebuter, c'était, semble-t-il, son lieu préféré. Autrement dit, à l'époque de son vivant, lorsqu'on voulait trouver le Messie, le Fils de Dieu, il n'était pas nécessaire d'aller tout le temps sur les montagnes, puisqu'il y est allé quand même quelques fois. Il n'était pas nécessaire d'aller le chercher dans le désert, mais il suffisait d'aller au milieu des gens. Et c'était là qu'on pouvait trouver le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus, qui est ressuscité, trouve son plaisir parmi les fils de l'homme. Ce n'est pas la peine de forcément vouloir à tout prix s'isoler, quoique l'isolation est importante, parce qu'il est important de se tenir à l'écart, entrer dans sa chambre, fermer sa porte. Pas nécessaire de s'enfermer dans des couvents, des monastères, c'est pas tant que Dieu n'y est pas, mais pour des amis qui sont là peut-être pour la première fois, ben nous aimerions vous dire qu'il y a plus de probabilité pour chacun et pour vous de trouver le Fils de Dieu au milieu des gens aussi simples que nous, nous sommes des citoyens lambda, hein, on est des fois même des petites gens, des gens des fois qui nous font la remarque, vous êtes des petites gens, vous êtes des évangéliques, ben on n'a pas de problème à le reconnaître. Il est aussi parmi les personnes un peu plus élevé que nous, parce que le Seigneur veut être présent parmi les gens, quels qu'ils soient, à la mesure où il y a un accueil. Il y a deux passages que je voudrais vous lire simplement pour que vous réalisiez l'importance de Jésus au milieu de nous et voir un petit peu la nature des rapports ou des relations qu'il voudrait avoir. On va simplement lire d'abord dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir, c'est un passage que nous connaissons. On ne va pas le lire dans son intégralité, quoiqu'il se comprend dans une situation de réciprocité par rapport au pardon. Si vous êtes peut-être en guerre avec quelqu'un et que vous voulez faire une démarche de pardon, vous êtes sûr que vous trouverez le Seigneur. Il dira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, au verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Deux ou trois sont assemblés, Jésus promet qu'il est là. Donc il est au milieu de nous. Mais dans quel sens? Dans un sens peut-être un peu plus abouti, dans le livre des psaumes, puisque le livre des psaumes nous parle de manière remarquable aussi de la vie de Jésus, car Jésus est présent dans toutes les Écritures. Hein, dans le livre des psaumes, c'est un cantique de David, le 32, et c'est à travers de la voix et de la plume de David, vous avez la présence de Dieu au milieu de nous. Notre Dieu à nous, il est ressuscité, donc c'est qu'il est vivant. C'est qu'il est vivant, c'est qu'il parle. S'il parle, il enseigne. S'il enseigne, c'est qu'il dirige. S'il dirige, c'est qu'il peut guérir, qu'il peut intervenir. Il peut sauver si quelqu'un n'est pas sauvé. Si quelqu'un est accablé par la maladie, il peut être guéri. Parce que le sauveur, c'est ça. Et nos amis l'ont bien chanté. Au chapitre 32 des livres des psaumes, et au verset 8, il est dit, la nature des relations, il est dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Qui peut se targuer d'avoir un Dieu comme celui de la Bible, qui se propose d'être là, de nous montrer, de nous parler, de nous instruire? On retrouve cet état d'esprit dans l'Apocalypse où Jésus, parlant à des fidèles, leur dira « mais je te conseille ». Hein, c'est des paroles remarquables. Le Créateur de l'univers qui dit « je te conseille ». Est-ce que le conseil de Dieu est bon à prendre? On dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais pas dans le cas de Dieu. Voyez-vous, il pourrait s'imposer de fait en venant, en tapant avec son poing sur la table. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Donc voyez-vous, dans les rapports que Jésus a eus, puisque je vous disais que loin justement de le rebouter, les bourgades animées, comme elles peuvent l'être au Moyen-Orient, vous savez, au Moyen-Orient, c'est le pays des Sémites, et dans le pays des Sémites, ça gesticule, ça bouge, ça crie, ça parle. Loin de le rebuter, c'était des endroits qui étaient pour lui ses lieux privilégiés. Lorsqu'il y avait des fêtes à Jérusalem, il avait toujours plaisir à monter à la fête. Et Jérusalem, à l'époque de Jésus, de la Nouveau Testament, c'est une ville de 300 000 habitants. Ce n'est pas rien, 300 000 habitants. Hein. 300 000 habitants, c'est une grande ville de France. Quand vous savez que Nice, par exemple, c'est qu'est-ce que 450 000 habitants. Et lorsqu'il y avait les grandes fêtes de l'Éternel, c'était des populations qui étaient multipliées par 3, par 4 et par 5. Mais là, on était quasiment sûr et certain d'être confronté à la présence de Jésus-Christ. Je voudrais simplement, pendant quelques instants, vous parlez de quelques rapports que Jésus a eus avec différents âges. Puisque l'Écriture, elle parle d'abord de ceux qui sont les petits-enfants. Est-ce que les petits-enfants ont à voir avec Jésus? Bien sûr que oui. Après, il est question des enfants. Est-ce que Jésus aime les enfants? Bien sûr qu'il aime les enfants. D'accord? Puis après, il est question des jeunes gens. Au final, il est question des pères. On pourrait même parler des vieillards. Saint Jean écrit à trois sortes de gens. Il dit les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Donc, vous voyez, ça fait tous les âges. Donc, personne cet après-midi se sent exclu de la communauté de la foi. Quelqu'un dira, mais ces choses-là, c'est pas pour moi, c'est pour les vieux, comme le disent les gens. On dit, mais ces paroles, c'est bien, mais c'est pour les vieux. Et pourquoi pour les vieux? Pour tout le monde, c'est. D'accord? Vous avez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, une relation que Jésus a avec des petits-enfants. Vous connaissez peut-être ce passage, on a amené à Jésus des petits-enfants. Ils étaient petits, puisque l'Écriture dit que Jésus les a pris dans ses bras. Donc on peut penser au bas mot des enfants de quelques mois, peut-être de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, vous voyez, l'équivalent d'un enfant que vous prenez dans les bras. Et puis l'Écriture, elle dit qu'aussi, vous pouvez les prendre par la main. Et on va s'apercevoir que le rapport que Jésus va avoir avec les petits-enfants est un rapport merveilleux, parce qu'on va amener ces petits-enfants avec des intentions louables, dans le sens que c'est probablement les parents qui ont eu cette bonne idée. Hein, on a demandé à ce qu'ils puissent les bénir en imposant les mains aux enfants. Et bien sûr que là, il y a une bénédiction que Jésus veut donner sans aucun problème. Mais les enfants, il les a pris dans les bras. Et vous savez, c'est important parce que pour nous, les enfants, on en parle souvent avec les frères et sœurs à l'Est, surtout les petits-enfants, c'est l'image de l'innocence. Les petits-enfants qui sont ici en train de s'amuser sur le tapis, ce sont des petits-enfants qui sont nés comme vous et moi avec une nature pécheresse, mais ils sont innocents. Denis vous a dit avec beaucoup de pudeur l'histoire de son petit qui est décédé. Et ce qui a été pour eux une accroche, c'est qu'en venant à l'Évangile, ils ont réalisé que leur enfant, ils allaient le revoir au ciel. C'est quand même réconfortant de savoir que quelqu'un qui perd un enfant, il va le retrouver au ciel, bien qu'il faut vivre la séparation. Un jour, il y avait un homme, il pleurait, il était âgé, il pleurait, et puis il ouvrait un livre, et puis il pleurait en lisant le livre. Et puis quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce que vous lisez là? Il dit, c'est la Bible. Il dit, mais vous arrivez à la lire? Il pleurait à chaudes larmes. Il dit, non. Il dit, pourquoi vous lisez ce livre? Il dit, parce que j'ai perdu mon petit-fils, il avait pas 4 ans. Mais avant de mourir, il était atteint d'une maladie. Il a dit, papy, ne pleure pas, tu sais, on se retrouvera au paradis. Et comme mon petit-fils me parlait de Jésus, alors je veux lire le livre de Jésus pour savoir quel chemin je dois prendre pour retrouver mon petit au paradis. C'est une bonne chose, hein. Non, c'est difficile de lire la Bible en pleurant tout le temps. L'enfant, c'est celui qui est innocent. On sait que l'innocence, elle présuppose un état dans lequel le péché n'a pas pris le pouvoir. Donc il y a des êtres qui sont parmi nous cet après-midi qui n'êtes pas dans la position d'un petit enfant, mais qui êtes peut-être innocent. Dans le sens que vous n'avez rien fait de très grave. Vous êtes là, peut-être, par le fruit d'une circonstance hasardeuse, vous avez accepté l'invitation d'un chrétien, que vous savez être une bonne personne, et vous êtes là comme une personne simple, docile, et somme toute assez anonyme. Eh bien, Dieu voudrait avoir un rapport avec vous de la même manière qu'il a eu un rapport avec les enfants. Les enfants, il les a pris dans ses bras. C'est pour ça que j'étais attentif à ce que disait Denis tout à l'heure. Vous savez, quand vous prenez un enfant dans ses bras, alors il va se sentir porté. Et un enfant qui est dans les bras de Dieu, il n'a rien à faire, il se laisse porter. Et Dieu voudrait agir cela avec vous. Ce Dieu que nous croyons être ressuscité, il voudrait vous porter. Alors pour les uns, il va les porter, comme il y avait probablement beaucoup d'enfants, les autres, il les a probablement tenus par la main. Puisque quand l'auteur des Épîtres aux Hébreux parlera de la relation que le Dieu d'Israël a eue avec le peuple juif dans le désert, il va schématiser la chose en disant qu'il les a fait sortir d'Égypte en les prenant par la main. Et vous savez, un enfant, quand vous ne le prenez pas dans les bras, vous le tenez par la main, c'est la même manière, ils se sont portés, ils se sont dirigés. Cette sensation de se sentir porté, tout à coup se retrouver léger. Et il y a peut-être quelqu'un qui est là pour la première fois ou les premières fois, et c'est justement ce sentiment qui est en train de naître en vous. Vous vous sentez bien, comme si quelqu'un vous portait, comme s'il n'y avait rien qui venait vous accabler. Tout à coup, vous n'avez plus les mêmes soucis, vous êtes là dans une atmosphère. Et c'est vrai que l'atmosphère spirituelle, c'est important. La présence de Dieu, c'est aussi une affaire d'atmosphère, le fait de bien se sentir. D'accord ? Et c'est peut-être votre cas à vous. C'est une première approche. Seulement, on a dit à Jésus, il faut que tu bénisses les enfants. Et Jésus a béni les enfants, il leur a imposé les mains. Ce n'est pas qu'il faut vous contenter d'une simple atmosphère, il faut que vous repartiez d'ici en croyant que Jésus veut vous bénir. Et vous savez, ces enfants qui ont été bénis par Jésus par le biais de l'imposition des mains, ce n'est pas rien, parce que quand on est béni par Jésus, ce n'est pas rien. L'Écriture, elle dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'Écriture, elle dit que ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Je veux croire que ces enfants, que nous ne connaissons pas, mais que nous verrons dans le ciel, j'en suis persuadé, attesteront de la bénédiction qu'ils ont reçue de Jésus. Bien sûr qu'à un moment donné, les enfants, il a fallu les rendre aux parents. Il a fallu les déposer par terre ou leur lâcher la main. Mais quand même, les enfants, tout petits qu'ils étaient, ça a dû les marquer. Et je veux croire que cette rencontre aujourd'hui, elle va vous marquer dans le sens que vous allez revenir voir les pasteurs qui sont là. D'accord ? La bénédiction, il faut la recevoir, il faut la garder. Et ne laissez à personne le soin de vous faire croire que c'était juste une atmosphère comme une autre. De la même manière que si vous auriez été, par exemple, au Lions Club, ça aurait été la même chose pour vous. C'est pas la même chose. Vraiment, c'est que là, le Seigneur vous bénit. Donc ne laissez à personne le soin de vous faire croire que ce n'est pas une bénédiction que vous avez reçue, mais c'est juste un état d'esprit qui diffère d'un autre, d'accord ? La bénédiction, il faut la garder. Et vous savez, pour garder la bénédiction que vous recevez au nom de Jésus, il faut faire ce que saint Paul dira dans la lettre aux Romains. Parce que les enfants, ils ont dû être marqués par cela. Et pour schématiser, qu'est-ce qu'elle dit l'épître de Paul aux Romains ? Elle dit ceci, « Attachez-vous fortement au bien et ayez le mal en horreur. » C'est la meilleure manière de garder la bénédiction. Attachez-vous fortement au bien. Cultivez ce que vous êtes en train de vivre. Cette présence qui vous fait du bien, il faut vous y attacher parce que le bien, en fin de compte, il est incarné dans la personne de Jésus. Il faut s'y attacher à Jésus de Nazareth. Ayez le mal en horreur. Ça veut dire détester le péché qui, disons-le clairement, nous rend malheureux et qui plus est la cause des pires souffrances que le Fils de Dieu a endurées. Parce qu'on ne pourra pas entretenir un climat de bénédiction si on n'a pas cette manière de faire, s'attacher fermement au bien et ayant le mal en horreur. Parce que Jésus, c'est comme ça qu'il a fait. Il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Alors voyez-vous, si cet après-midi vous vous sentez un peu étrange, comme si vous étiez porté, comme si vous sentez quelque chose est en train de vous atteindre, croyez que c'est la présence de celui qui est ressuscité. Parce qu'il est présent. Oh, c'est pas qu'il n'est pas présent ailleurs, hein. Mais nous le savons, il n'est pas présent dans la pierre. Il y a des gens qui visitent des cathédrales, je ne sais pas pourquoi, pour le côté architectural, et c'est très bien. Mais c'est pas là que se situe la dimension spirituelle. Ça, c'est les petits enfants. Un jour, Jésus va croiser un cortège. Et là, c'est plus un petit enfant, mais c'est un enfant. C'est le fils de la veuve de Naïm, qui a été frappé dans son enfance par peut-être une maladie, il a eu un accident. On portait en terre un fils unique. Vous lirez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Et il y a Jésus qui passe avec tous ceux qui lui étaient proches, et voilà qu'ils vont croiser ce cortège funéraire. Et là, ils vont trouver donc une femme et pleurer. Parce que l'Écriture, elle dit qu'elle était seule et puis c'était son fils unique. On le dit souvent, double drame que la perte d'un enfant, parce que pour parler de la perte d'un enfant, ou du moins pour comprendre, il faut passer par là. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont perdu des enfants. Et nous, on ne va pas comme ça, de but en blanc, vous dire, mais on vous comprend. Et comment je vais vous comprendre si moi, je n'ai pas perdu un gosse ? On ne peut pas vous comprendre. On peut imaginer. Double drame psychologique d'une mère qui perd son petit. Et un drame matériel, puisque si c'est son fils unique, peut-être que c'est lui qui devait subvenir plus tard à ses besoins. Et l'Écriture, elle dit que le cortège s'est arrêté et que Jésus a fait quelque chose que personne ne pouvait faire, sinon lui. Il a touché le mort. Il a touché le cercueil. Et là, il y a un autre toucher de la part de Dieu. Non plus le fait de prendre dans les bras, mais il a touché le cercueil. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. En Israël, quand vous touchiez un mort, vous étiez impur. Et lui a fait ce que personne d'homme ne pouvait faire. Et par là même, il a arrêté le processus de la mort. Puisque l'Écriture, elle dit que l'enfant est ressuscité. Vous vous rendez compte ? Non seulement il est ressuscité, mais il peut ressusciter quelqu'un. Formidable, ça. D'accord ? Alors là, le cadavre qui était là, il a pu le toucher. Parce que oui, il a fait corps. Vous savez que l'Écriture a dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais l'Écriture, elle dit, peut-être que vous ne savez pas, que Jésus-Christ a été fait péché pour nous. Pas pécheur, parce qu'il est sans péché, lui. Mais il a été fait péché pour nous. Il sait ce que c'est que la somme des péchés de l'humanité, puisqu'il l'a porté sur lui. Mais en touchant le cercueil, il a éradiqué le processus de mort. Et Paul dira ceci, « Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On en a parlé ce matin, « car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus nous a affranchis de la loi du péché de la mort. » Donc il y a une loi nouvelle qui intervient là. La loi de l'esprit de la vie qui est en Jésus, qui peut ramener quelqu'un à la mort. Et puis Jésus a dit, « Au mort, lève-toi !» Et bizarrement, le mort ne s'est pas levé, il s'est assis. Alors que Jésus a été clair, il a dit « Lève-toi !» mais il s'est assis. Ah, il y a une différence entre assis et être debout. Si Jésus avait voulu qu'il soit assis, il lui aurait dit « Assis-toi !» Mais s'il lui dit « Lève-toi !» c'est parce qu'il fallait qu'il se lève, mais il s'est assis. On ne va pas stigmatiser ce jeune-là qui est là. Et c'est pour vous dire combien nous avons des fois du mal à obéir à la parole de Dieu. Jésus nous demande une chose et on la fait à moitié. Mais soit Jésus n'a pas rejeté ce garçon. Qui c'est qui a obéi d'entrer à la parole de Dieu ici ? Qui c'est qui peut dire, moi, une fois il m'a parlé et ça a été bon, hein ? Paul dit, je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses parce que pour vous elles sont salutaires. Et Paul dans les Romains, il dit, vous savez, la patience du Seigneur c'est aussi notre salut. Alors il est patient. Il faut être patient avec les gens, ceux qui viennent à la vie, qui découvrent l'Évangile. Soyons pas trop intransigeants. Rappelez-vous et rappelons-nous comment nous étions avant. Il faut prendre le temps. Chacun marche à sa cadence. Enfin, il s'est assis. Et par la suite, il finira par se lever. Être assis, c'est important parce que c'est ce que vous êtes, vous, cet après-midi, qui avez la gentillesse de m'écouter. Être assis, c'est la position première, quelque part, qu'il convient d'avoir pour quelques-uns. Parce qu'il faut d'abord s'asseoir dans la maison de Dieu pour écouter. Le disciple, c'est celui qui est assis, qui prend le temps d'écouter. Et quant à celui qui se lève, c'est celui qui va après prendre la position pour servir. Parce que être assis, c'est écouter, et être debout, c'est servir. Et on pense bien que ce garçon ne tardera pas après à servir. D'accord ? Donc il y a ce rapport que Jésus voudrait avoir avec quelques-uns en disant lève-toi, dans le sens que commence par t'asseoir. Ne sois pas semblable à ceux qui viennent et qui s'en vont et qui reviennent. Je vous ai parlé ce matin de ceux qui sont présents avec leur cœur, mais le corps, il n'est jamais là. Ah, c'est les plus grands chrétiens du monde. Ils vous aiment de loin. Ils ne sont jamais là. Puis il y en a, le corps, il est là. Mais le cœur, il est ailleurs. On se demande où ils sont. Ou alors, ils sont dans une espèce de rituel de la vie évangélique. Ils font les choses, mais le cœur, il n'y est pas. À quoi ça sert ? Si tu es là dans le corps, mais que ton cœur, il n'est pas avec ton frère, il n'est pas avec ta sœur, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Et à un moment donné, il faudra que tu puisses te lever pour servir. D'accord ? Et c'est là comme ça que le Seigneur il se fait connaître au travers des gens qui sont assis. Regardez dans les évangiles de Matthieu, il a enseigné sur la montagne des béatitudes, il y avait des milliers de gens qui étaient assis. Être assis au pied de Jésus, dites, c'est pas rien. Comme Marie, elle était assise au pied du Maître, elle écoutait sa parole. Je le dis régulièrement, être assis au pied de Jésus, c'est le Seigneur qui nous apprend justement à redéfinir ou à relativiser en rapport avec le temps qui nous est imparti, l'utilisation du temps. Aujourd'hui, vous avez pris le temps de vous asseoir, mais c'est du temps béni. Parce que quand on est assis, Dieu met des choses dans nos cœurs, on ne les comprend pas dans l'immédiat. Comme dira quelqu'un, il est plus facile pour moi de les concevoir en esprit que de les dire avec la bouche. Mais tôt ou tard, ça sortira, gloire à Dieu. Et ce matin, votre pasteur l'a dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est important, ça. Après, il y a un jeune homme. Alors, il y a plein de jeunes hommes dans la Bible. Il y en a un, il est connu, il s'appelle Jean. C'était l'apôtre que Jésus aimait. Alors, est-ce qu'il avait des chouchous ? Non. Il y avait quand même des particularités, Jean. Dans les évangiles, il nous dit qu'à un moment donné, Jean, il a pu poser sa tête contre la poitrine de Jésus. Vous rendez compte le privilège qu'il a eu ? Il a pu entendre le cœur de Dieu battre. Vous n'aimeriez pas entendre le cœur de Dieu battre ? Tout à l'heure, je parlais avec vos pasteurs parce que Bernard, il a été au SMUR. Olivier Monpiot, le fils du pasteur Monpiot, il est au SMUR. Alors je disais, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut faire un malaise, c'est maintenant. Hein. Il y en a deux qui sont au SMUR. Hein. Alors du coup, j'ai dit, Olivier, est-ce qu'on a un défibrillateur à l'église ? Il m'a dit, non, je ne sais pas. Il m'a dit, mais il ne faut pas s'amuser avec ça. Bon, bref. Mais eux, ils pourraient vous dire mieux que moi, qu'est-ce que c'est que les battements du cœur ? Quand on est anxieux, quand on est un peu, un peu sous pression, on a le cœur qui bat à 1000 à l'heure, ou alors il y a le cœur des fois qui bat lentement. Mais lui, il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus, il a pu entendre les battements du cœur de Dieu. C'est important ça. Peut-être pas pour rien qu'il a vécu le plus longtemps. C'est celui des apôtres qui a vécu le plus longtemps. Puis un jour Jésus il dira à Pierre, tu sais Pierre, quand tu étais jeune, tu t'habillais, tu te saignais, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, c'est un autre qui va te ceindre, il te mènera où tu ne veux pas aller. Alors il annonçait les difficiles temps qu'il allait connaître sur le martyr. Puis Pierre, il s'est tourné vers Jean, il dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Mais moi, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Et à partir de là, il a couru le bruit que l'apôtre Jean n'allait jamais mourir. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il était immortel. Il a simplement dit, si moi je veux qu'il reste jusqu'à ce que je demeure, autrement dit, c'est mon affaire, ce n'est pas la tienne. Alors on a dit, Jean, il est immortel. Et quelque part, ce n'est pas faux, parce que si Jean est immortel, il l'est par les écrits qu'il a laissés. Mais Jean a eu une particularité, c'est que par rapport à Pierre, puisqu'il est question de Pierre et de Jean, souvent dans la Bible, Pierre c'était un homme, un patron pêcheur, c'était un homme d'action. Et dans la maison de Dieu, il faut des gens qui soient actifs. Mais Jean, lui, c'était plutôt l'homme de la méditation. Et voyez-vous, ce personnage qui pose sa tête sur le cœur de Jésus, c'est l'image aussi de ce que Dieu voudrait que nous ayons à faire avec le ressuscité. Tu veux connaître le ressuscité ? Il faut apprendre à méditer. Autrement dit, il faut apprendre à réfléchir. Parce que celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Il y a des gens qui disent, il est où le Seigneur ? Il est où Dieu ? Prends le temps de réfléchir. Et Dieu nous rejoint dans la réflexion. La réflexion, ce n'est pas rien, c'est un exercice mental qui est à la portée de chacun. Mais nous, on est français, nous. Nous, on parle et on réfléchit après. Puis après, on dit, mais j'ai dit des bêtises. Ben oui, tu n'as qu'à réfléchir avant de parler. Mais moi, je suis comme ça, moi, je dis toujours ce que je pense. Mais mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Alors on dit ce qu'on pense, et puis après, on dit, oh là, que j'étais bête. Ça m'est arrivé à moi aussi. Serais-je le seul ? Quels sont ceux qui ont déjà parlé et réfléchi après ? Levez la main. Allez, soyez honnêtes. Moi, je vous connais, moi. Les Arlésiens, c'est un peu comme les Arlésiens, c'est des gens du Sud. À Toulon, je ne vous dis pas. Alors à Marseille et en Corse, je ne vous dis pas. Mais si vous voulez avoir une preuve que Jésus est ressuscité, prenez le temps de réfléchir. Réfléchissez sur votre vie, sur les choix que vous avez faits. Que dire ? Méditez sur la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, l'Écriture, et c'est Jésus qui a dit la loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Voyez-vous, c'est important. Il y a un autre qu'on pourrait considérer comme un jeune homme. C'est celui dont vous lirez l'histoire dans Matthieu, chapitre 20. C'est l'histoire de Bartimée. Je pense qu'il n'était pas bien âgé. Bartimée, c'est un homme qui était mendiant. Il était mal en point. Il était aveugle. Il était là, sur le bord du chemin. Et puis, il y a des gens comme ça qui sont aveugles. Vous savez, le problème de la cécité, c'est en rapport avec l'incrédulité. Il y a peut-être quelqu'un qui voit pas bien cet après-midi. Vous y voyez rien du tout. Vous êtes là, dit qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que c'est cette réunion ? Vous y voyez rien du tout. Mais enfin, si vous êtes aveugle, peut-être que vous n'êtes pas sourd. On n'est pas frappé de tous les mots quand même. Peut-être que vous ne voyez pas, mais au moins vous entendez. C'est important ça. Alors, il a entendu que le Fils de Dieu marchait, il était là. Et puis, je ne sais pas comment il a su, il a appelé le Fils de David. Et puis, l'Écriture, elle dit que Jésus s'est arrêté. Et puis, appelez-le. Alors on peut penser, c'est moi qui le dis, mais je pense que c'est en rapport aussi avec l'Écriture, on peut penser que le Fils de Dieu, il a ajouté le geste à la parole, appelez-le. Alors il l'a appelé, et puis on est allé, on dit, tu sais, il t'appelle. Les mêmes qui disaient, arrête, tu nous casses la tête, il a autre chose à faire que de s'occuper de ton cas, ils ont fait volte-face, mais il t'appelle. Et vous voyez, le geste qui est joint à la parole fait que tout à coup, là, cet homme, le rapport qu'il a eu avec Jésus de son vivant, c'est qu'il s'est senti interpellé en plein cœur. Et pourquoi vous croyez qu'on est là cet après-midi ? Mais on est là pour vous parler à vous ! À vous en particulier, là ! Et les gens nous disent, mais c'est incroyable, j'étais à la réunion ! Tiens, Laurent, il racontait son témoignage dimanche dernier, il est allé aux hommes d'affaires du plein évangile. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit ? Ben, il a expérimenté ce que beaucoup, première fois qu'il vient, il a entendu le gars parler, il dit, mais c'est pas possible, qui c'est qui lui a raconté ma vie ? Ça vous l'a jamais fait, ça ? Mais c'est pas possible, Cyril et Bernard, ils ont dû voir le pasteur, il a dû raconter des choses sur ma vie. C'est pas vrai, il m'a rien dit sur vous, à part des choses que je garderai secret pour moi. Il y a des gens, ils viennent dans nos réunions, ils se sentent interpellés. Et oui, c'est à toi que je parle, je me permets de vous dire tout parce que c'est la Bible qui le dit, mais madame, si vous êtes plus âgée, c'est à vous que je parle. Oui, mais moi, il y a longtemps que je connais le Seigneur, à plus forte raison, vous avez besoin encore d'entendre, C'est à vous que Dieu parle, c'est à nous que Dieu parle. Vous croyez qu'il parle pour qui ? Ah, si ma belle-mère, elle était là, ben, elle aurait bien entendu, parce qu'elle avait besoin d'entendre. Mais la belle-mère, elle n'est pas là. Hein. Dieu saura parler à la belle-mère. Hein. Mais c'est à nous que Dieu parle. Appelez-le. Alors, ils l'ont appelé, puis il avait un vieux par-dessus râpé qu'il a dû, jeter. Puis il est venu, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Et là, son problème à lui, c'était l'absence de vision. Ben, il a été délivré parce que Jésus guérit les aveugles. Mais il a dû jeter son vieux par-dessus râpé, là. Hein, vous savez, le manteau d'infortune que nous avons, nous cachant toutes nos imperfections. Jésus n'est pas venu pour affestoler nos habits. Hein. Il est venu pour nous changer intégralement. Ma fille, il faut jeter quelque chose. Il a jeté son vieux par-dessus, il est allé, puis il a été guéri. Il a senti que c'est à lui que Jésus s'adressait. Puis l'Écriture a dit qu'il a suivi Jésus sur le chemin. Et il est allé jusqu'où ? Ben, il est allé jusqu'à la fin, parce que cette histoire que vous trouvez dans l'évangile de Matthieu, c'est dans les derniers jours de la vie de Jésus. C'est la dernière semaine de Jésus. Et si cet homme a été guéri d'un problème de cécité, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a suivi le Fils de Dieu jusqu'au calvaire. Et là, à la croix, il a vu ce qui s'est passé. Une première bénédiction qui consiste en ce que Dieu veut te bénir dans le corps, mais il veut que tu puisses aller plus loin pour guérir ton cœur et que nous réalisions ensemble l'importance des crucifixions de Jésus, les souffrances qu'il a endurées. C'est important ça. Vous comprenez ? Donc on peut penser qu'il a joint le geste. Et oui, ce message, c'est un message qui est pertinent parce qu'il s'adresse à chacun. Moi, je ne vous connais pas spécialement, mais il s'adresse à vous. On va aller un peu plus loin pour vous parler d'un autre, d'un homme qui était peut-être plus qu'un jeune homme, c'est Saul de Tarse. Vous connaissez l'histoire de Saul de Tarse, il était méchant, il respirait la menace et le meurtre. Et un jour, il va à Damas avec des lettres qu'il avait reçues des leaders de la religion israélite. Il devait aller à Damas, il devait mettre sous scellé, c'est le cas de le dire, en prison, ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Il arrive sur ce chemin de Damas. Il a une révélation, somme toute, des plus bouleversantes. Parce qu'on oublie de considérer que cette révélation qu'il a eue, c'est quelque chose de bouleversant. Vous savez ce que dit la Bible ? Elle dit que c'est quelque chose de terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Mais moi, je verrai Dieu, quand je verrai Dieu, je m'arrangerai avec lui. Vous êtes sûr ? Mais on ne sait pas de quoi on parle. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Hein ? Notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Et là, l'Écriture, qu'il y a une lumière qui est apparue, qui surpassait l'éclat du soleil, puis il y avait beaucoup de gens. Mais là où la plupart ont aperçu quelque chose et ont entendu la voix, lui, Saul de Tarse, il n'a pas aperçu, il a vu, il n'a pas entendu, il a compris. Et là, il n'y a pas eu un toucher particulier, il y a juste un échange de voix. Il te serait dur, tu sais, Saul de Tarse, de regimber contre les aiguillons, ça veut dire... Tu sais, tu ne pourras pas t'en sortir si tu vas toujours contre ta conscience. Le cas de conscience que tu as dans ta vie, c'est de Dieu. Ce n'est pas le prédicateur qui te met mauvaise conscience. Ce n'est pas le frère ou la sœur. C'est parce que Dieu veut sauver ton âme et qu'il ne pourra pas le faire sans que tu aies un cas de conscience. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Ben, si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Parce que Dieu, c'est au cœur qui parle. Alors, il dit, qui es-tu, Seigneur ? Il dit, ben, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il a été touché en plein cœur. Là. Puis il a dit les mots magiques, ou j'oserais dire le mot-clé, il dit, que veux-tu que je fasse ? Vous savez que tout dépend de là. Hein. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? Il n'aurait pu rien dire, et puis on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu d'une manière authentique, mais ils n'ont pas su répondre sur ce qu'il fallait, ils ont disparu de la scène évangélique. Parce qu'ils sont repartis, ils n'ont pas su saisir l'opportunité que Dieu leur a donnée. Alors, tu veux savoir ce qu'il faut que tu fasses ? Ben, tu vas aller dans la ville, et dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Comme il avait perdu la vue, ben, on l'a pris comme un enfant, et lui qui était le grand Saul de Tarse, qui était zélé, qui était exemplaire dans bien des niveaux, parce que Saul de Tarse, c'était tout sauf un hypocrite. Hein, parce que vous savez, les gens qui sont des fois ardus et qui sont contre l'évangile, ne sont pas tous des hypocrites, c'est des gens qui sont dans l'ignorance et dans les ténèbres. Alors on l'a pris, puis on l'a amené jusqu'à la ville, et l'Écriture, elle dit que là, il est resté 3 jours, et 3 nuits sans manger ni boire. Il n'avait pas cœur de manger. Hein. Il venait de découvrir qu'il avait été l'auteur des blessures de Jésus. Et là, pendant 3 jours et 3 nuits, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il s'est vraiment transformé. Il est rentré en lui-même. Il a découvert, d'ailleurs il le dira par la suite, il dit « Moi je suis le moindre, je suis un avortant, je ne suis même pas digne d'appeler apôtre, j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Et vous savez, quand il dit ça, là, Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul, c'est pas par modestie, hein, vous savez, regardez comme je suis modeste, moi j'ai persécuté. Non, c'est qu'il était conscient qu'à l'époque où il était le pharisien, il a été celui qui a persécuté le Fils de Dieu en persécutant les chrétiens, il était conscient de cela. Donc il a pu rentrer en lui-même et pendant 3 jours et 3 nuits, il a découvert la somme des ténèbres épaisses qu'il y avait dans son cœur. Et c'est le rapport qu'il a eu avec le ressuscité. Vous connaissez l'histoire d'un fils prodigue qui a été ingrat, qui a été irrespectueux, qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et l'Écriture a dit qu'à un moment donné, quand même, il est rentré en lui-même. Est-ce que vous êtes déjà rentré en vous-même? Parce que ce n'est pas le tout d'être en présence du ressuscité. Le ressuscité nous renvoie à ce que nous sommes. D'accord? Vous allez me dire que c'était que pour Saul de Tarse. Oui, mais pas que. Le souvenir des choses du passé, nous, ça nous marque. On a été délivré du passé, gloire à Dieu. Nos péchés ont été pardonnés, mais quand même, on s'en rappelle. Saul de Tarse, il écrit, Paul, il écrit aux Romains, il dit, « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez encore, car vous savez que la fin de ces choses, c'est la mort. » Donc nous, on se souvient de ce que nous étions. Mais on s'en souvient tellement bien qu'on sait que le sang de Jésus nous a lavés. Mais on se rappelle des choses qu'on a fait dans le passé, parce qu'on m'a dit quelqu'un, ne pas se souvenir de son passé, c'est être condamné à le reproduire. Moi, je le dis quelquefois, lorsque je vais à Toulon, je me suis converti à Toulon, je vous assure que je ne suis pas amnésique. Il y a bien des endroits, des rues, des lieux et des gens que je vois qui me renvoient directement à mon passé. Mais j'ai été pardonné, gloire à Dieu. Et le rapport avec le ressuscité, c'est qu'il voudrait te renvoyer à toi-même. Nous, on a tellement tendance à se mesurer par rapport aux autres. Et nous avons bien tort de nous estimer en fonction de ce que les gens pensent ou disent de nous. Nous avons tort de faire cela. Nous devrions prendre le temps de rentrer en nous-mêmes pour faire un bilan, savoir où nous en sommes. Et oui, puisque Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, mais c'est nous qui sommes responsables de la mort du Fils de Dieu. Et à chaque fois que d'une manière délibérée je mens, ou je me tourne vers des voies que je sais ne pas étant les bonnes, eh bien je participe à nouveau aux souffrances du Christ. Je suis Jésus que tu persécutes. Ça c'est une parole qui vous transforme une vie. Mais il faut au moins passer par là, il est rentré en lui-même et puis ça a été fini 3 jours après. Un dénommé Ananias viendra, et voilà, celui qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu sois béni, que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et vous savez ce que dira Ananias? Il dit, Paul, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. 3 jours, pourquoi tardes-tu? Vous êtes déjà rentré en vous-même? Vous avez déjà réalisé la somme des ténèbres qu'il y a en vous? Mais tout à coup, vous prenez conscience que Jésus n'est pas là pour vous condamner, mais qu'il veut vous sauver. Alors, levez-vous et engagez-vous dans les eaux du baptême. Ne tardez pas. Parce que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ne tardez pas à vous engager. Même si vous avez encore des choses à voir, mais on baptise jamais quelqu'un dans la condition du parfait. On le baptise rarement dans la condition d'un prophète, mais généralement tout le temps dans la condition d'un croyant, si vous croyez. Alors vous allez vous engager. Et les améliorations, elles vont venir après. Vous allez vous consacrer, vous êtes transformé. Mais ne tardez pas. Et je termine en vous disant que, puisque tous les âges sont là, un jour on a parlé à Jésus d'une belle-mère. C'était la belle-mère de Simon. Elle était atteinte d'une violente fièvre. Et là aussi, il y a un rapport avec la personne que peut-être vous êtes. Elle était atteinte d'une violente fièvre, cette brave belle-mère. Oh, elle avait fait de mal à personne, certainement, mais l'Écriture, elle dit que Jésus est venu. Et les 3 évangélistes vous racontent leur histoire d'un niveau, mais il y en a un qui dit que Jésus s'est penché sur elle et il a menacé la fièvre. Alors vous, comment on peut comprendre la menace? Est-ce qu'il a parlé? Il a vociféré? Non, pas des paroles de vocifération. Moi, je me dis, comment est-ce qu'il a menacé? Est-ce qu'il a parlé? Probablement. Il a dû regarder. Vous savez, les yeux menaçants. Nous, des fois, on regarde les gens, on menace avec les yeux. C'est le mépris, ça. Mépris, c'est pas qu'une parole, Il y a des gens, ils vous méprisent par le regard. Alors, je ne sais pas si vous en êtes là. Mais vous savez, les regards, ça compte. Paul dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Donc, attention à la façon dont nous regardons les gens, parce qu'avec un regard, on peut sauver quelqu'un ou le tuer. Alors, on peut penser qu'il s'est penché, qu'il a menacé. Elle était atteinte d'une violente fièvre. Elle n'était pas dans le coma, mais elle était bien, bien, bien malade. Et c'était tellement grave au point que Jésus a menacé la fièvre. Donc, il a menacé la fièvre qui était en train de la tuer, cette belle-mère. Mais il se peut que cette femme, elle a été confrontée au visage de Jésus en train de menacer. Mais on est sûr et certain que cette femme, elle a compris que les regards, aussi hostiles pouvaient paraître, n'étaient pas à son égard, mais à l'égard de ce qu'il a menacé. Et là, voyez-vous, le rapport que Dieu va avoir avec nous, c'est un rapport d'autorité. Et l'autorité, il faut la vivre. Il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité. L'Écriture a dit que celui qui méprise l'autorité, il attire une condamnation sur lui. Il y a l'autorité des ministères, l'autorité des parents. L'autorité des moniteurs et des monitrices avec les enfants. Est-ce qu'on peut vivre sans autorité? Est-ce qu'on peut vivre sans autorité? Eh bien aujourd'hui, il y a des gens qui veulent plus d'autorité. Dans le monde, je vous dis pas. Ils veulent plus d'autorité. Et dès que vous prenez un peu d'autorité, on vous taxe de tout et de n'importe quoi. Et pour autant, il faut l'autorité. En face des ténèbres, il faut l'autorité. Par rapport aux décisions importantes qui engagent l'éternité, il faut l'autorité. Des fois, il faut dire à quelqu'un, écoute, ne tarde pas, maintenant fais ce qu'il faut faire. Mais des gens, ils ne supportent pas ces choses-là. Mais il a fallu que Jésus montre sous les traits de son autorité pour que la fièvre, elle soit partie. Hein. Il n'y a peut-être pas une fièvre qui vous tarabuse comme c'était le cas de cette belle-mère, mais il y a peut-être quelque chose qui vous range. Hein, je disais il n'y a pas longtemps que quand il y a une fièvre quelque part, c'est qu'il y a un foyer infectueux. Hein, s'il y a la fièvre, c'est qu'il y a une infection. Hein, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine d'amertume ne poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Voyez-vous ? Donc on n'a pas la fièvre dans le sens premier du terme, mais il y a peut-être un foyer infectueux dans votre cœur qui se rapporte justement au mépris de celui-ci, au mépris de celle-ci. Mais moi je disais, moi je pense ce que je veux, toi tu penses ce que tu veux. Moi je dis ce que je veux, toi tu dis ce que tu veux. Ça c'est la forme moderne du mépris. Et ça c'est important. Parce que si ce n'est pas réglé, ça pose des problèmes. Alors Jésus s'est penché, il a menacé la fièvre, il a manifesté l'autorité, et la fièvre a quitté la femme. Et cette belle-mère, elle s'est levée, puis elle les a servis, elle a servi Jésus, elle a servi les apôtres. Et ça, c'est formidable. Tu ne peux pas servir Dieu. Encore moins, tu ne peux pas duper les gens en faisant croire que tu sers le Seigneur si les vrais problèmes intérieurs ne sont pas réglés. Hein. Mais on a besoin de l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez que cette parole, elle fait autorité pour nous ? Hein ? Elle est dénigrée, elle est combattue, ce n'est pas depuis maintenant qu'elle est combattue. Mais enfin, tous ceux qui ont voulu la détruire, ils ont disparu, mais la parole de Dieu, elle demeure. Et puis il y a l'exercice de l'autorité qui doit être vécu dans la puissance de Dieu. Je parle d'autorité, je ne parle pas d'autoritarisme, vous avez compris. Hein. Mais on a besoin de l'autorité. D'accord ? L'Écriture, elle dit qu'il faut reprendre ceux qui pêchent. Certes avec douceur, mais il faut les reprendre. Et des fois, on a besoin, vous et moi, d'être repris par Dieu. Parce que Dieu, c'est un Père et il nous aime. Et si les gens qui vous voient faire du tort ne vous reprennent jamais, mettez en doute leur charité. C'est quelqu'un qui vous aime et qui nous voit faire du mal, il va nous le dire. Parce que quand on aime les gens, on leur dit la vérité. Il faut juste y mettre les formes. Alors est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité ? Il est présent parmi nous, au milieu de nous, il voudrait avoir ce genre de relation. Est-ce que vous voulez qu'on se recueille ? Je vais demander à nos amis de la chorale de reprendre place. Je pense qu'ils ont prévu.